Bonjour à tous, ici Chantal Doré, au micro d'Au fil du temps, l'émission qui relie les générations. Vous avez sans doute vu passer sur vos pages Facebook des photos d'enfants qui débutent une nouvelle année scolaire. Des photos avec des couvre-visages et des sourires masqués. Ouais, c'est particulier cette année. Et des petites angoisses peut-être découvertes en cette rentrée qui est tout sauf banale. Cette photo du premier jour d'école, c'est une tradition intergénérationnelle dans ma famille. Mon père nous demandait d'indiquer avec nos doigts notre degré d'année scolaire. Donc, troisième année, trois doigts, sixième année, six doigts, et ainsi de suite. Je me rappelle que ma sœur Marie-Claude et moi, nous n'étions pas des grandes fans de cette pose classique, et pourtant on s'est rendu compte un peu plus tard en regardant nos albums photos respectifs et nos pages Facebook respectives que nous avions toutes deux reproduit ce rituel avec nos propres enfants. Et peut-être que si nous avons la chance de devenir mamie, verra-t-on également nos propres enfants reproduire ce même rituel-là avec leurs enfants. D'ailleurs, ma sœur a prolongé ce rituel-là au printemps. Elle prend une photo annuelle devant le lilas en fleurs et récemment, elle a déménagé. Devinez quel arbuste elle a planté sur le terrain de sa nouvelle maison? Eh oui, un lilas. Perpétuer des traditions, ça me semble l'essence même de l'intergénérationnel. Ça construit des ponts et ça transmet la culture d'une famille, d'une génération à une génération. Alors, ma sœur et moi, on se disait que nos fils sont maintenant au cégep. Comme le temps file et comme le mien est parti en résidence, inévitablement, on surgit cette semaine des pensées sur le vieillissement. « Peu de gens savent être vieux », a écrit François de la Rochefoucauld, écrivain né en 1613. Ce n'est donc pas d'hier qu'on s'interroge sur le vieillissement. Alors, j'ai donc invité un vrai de vrai spécialiste, un gériatre, Stéphane Lemire, co-auteur de « Vieillir, la belle affaire ». En deuxième partie, on se questionne sur ce que ça veut dire « exister » en fonction des âges dans notre société avec Mitiko Miller, autrice et formatrice en communication consciente. Avant d'accueillir mon premier invité, une chanson classique sur le vieillissement, « Vieillir » de Jacques Brel. Bon, il y a des bouts où on rigeonne un peu, mais en tout et partout, on est toujours mieux de rire et de sourire. Je pense que ça fait passer la pilule. Vieillir de Jacques Brel.
Mourir en rougissant, suivant la guerre qu'il fait. Du fait des Allemands à cause des Anglais. Mourir baiseur intègre entre les seins d'une grosse, contre les os d'une maigre dans un cul de basse fosse. Mourir de frissonner, mourir de se dissoudre, de se racrapoter, mourir de se découdre, ou terminer sa course la nuit de ses 100 ans, vieillard tonitruant, soulevé par quelques femmes, cloué à la grande ourse, cracher sa dernière dent en chantant Amsterdam. Mourir, cela n'est rien, mourir, la belle affaire, mais vieillir, oh. Pour vieillir. Mourir, mourir de rire, c'est possiblement vrai. D'ailleurs, la preuve en est qu'il n'ose plus trop rire. Mourir de faire le pitre pour dérider le désert. Mourir face au cancer par arrêt de l'arbitre. Mourir sous le manteau, tellement anonyme, tellement incognito, que meurt un synonyme même ou terminer sa course. La nuit de ses 100 ans, vieillard tonitruant, soulevé par quelques femmes, cloué à la grande ourse, cracher sa dernière dent en chantant Amsterdam. Mourir, cela n'est rien. Mourir, la belle affaire. Mais vieillir, oh, vieillir. Mourir couvert d'honneur et ruisselant d'argent, asphyxié sous les fleurs, mourir en monument. Mourir au bout d'une blonde, là où rien ne se passe, où le temps nous dépasse, où le lit tombant tombe. Mourir insignifiant au fond d'une tisane, entre un médicament et un fruit qui se fane. Ou terminer sa course la nuit de ses 1000 ans, vieillard tonitruant, soulevé par quelques femmes, cloué à la grande ourse, cracher sa dernière dent en chantant Amsterdam. Mourir, cela n'est rien. Mourir, la belle affaire. Mais vieillir, oh, oh, vieillir.
Stéphane Lemire, co-auteur de Vieillir, la belle affaire aux éditions Trécarré, a un jour décidé de quitter son emploi de docteur pour créer la fondation Age. Homme de cœur et de courage, il aime profondément les aînés et déploie mer et monde pour agir en amont et prévenir l'hospitalisation. Et puis, la vie est faite de ces bizarreries. C'est en fait d'un hôpital qui nous appelle.
Oui. Bonjour.
Ben oui,
qu'est-ce que c'est? Du centre de dépistage COVID, centre-ville de Québec.
Ben oui, on parle que vous tentez de prévenir l'hospitalisation, puis finalement, vous nous appelez d'un hôpital.
Ah, en fait, c'est le centre de dépistage, donc c'est pas à l'hôpital, c'est dans un stationnement de centre d'achat. C'est vraiment bien synchronisé. On arrive exactement à l'endroit où on fait le test, là, au moment où j'ai vos questions à répondre. Donc, ça me fait quand même plaisir d'être là.
Alors, Stéphane Lemire, parlez-moi d'abord de votre grand-mère Laurette, parce que j'ai l'impression qu'elle a été une inspiration dans cette démarche-là de gériatrie sociale.
Ben oui, en fait, ma grand-mère Laurette, c'est quelqu'un qui a eu une grande influence là sur moi, dans le sens où, en termes de lien intergénérationnel, on a habité toute notre vie pratiquement là à côté de chez elle. Mon père avait fait construire la maison là sur l'ancienne terre, puis donc on avait un petit chemin entre les deux maisons. Là. Donc j'ai passé beaucoup de temps avec elle. Elle m'aidait à faire mes devoirs parce que c'était une ancienne enseignante.
Ah oui.
Moi, je donnais de l'aide pour différents aspects là de l'entretien d'une maison et tout ça. Donc le lien s'est tissé, puis il a persisté avec le temps. Puis pour moi, dans le fond, ça fait en sorte que les aînés, ben, c'est des gens qui font simplement partie de notre vie, puis qui sont pas nécessairement des personnes qui n'ont pas qui sont pas nécessairement débilitées, qui peuvent avoir une vie normale. Puis voilà.
Parlant de normal, là, je rappelle à nos auditeurs qui se joignent à nous à l'instant que le docteur Lemire a eu le dévouement de nous rejoindre malgré qu'il soit présentement dans un centre de dépistage pour le COVID, je crois, pour un membre de sa famille. Donc, on le remercie de son dévouement et on vous remercie, chers auditeurs, de votre patience là, pour les bruits qu'on entend. Qu'est-ce que vous voulez, hein? On est au cœur de la vie.
Exactement. La vie continue malgré tout.
Docteur Lemire, à votre livre Vieillir, la belle affaire, vous l'avez adressé en pensant à qui en particulièrement? À qui il s'adresse d'abord? Aux personnes âgées ou à ceux qui vont le devenir ou aux gens qui en prennent soin?
Ben, le livre Vieillir, la belle affaire, son objectif, c'est d'aider les gens à comprendre qu'est-ce que c'est le vieillissement, qu'est-ce que c'est le vieillissement normal d'un point de vue physiologique, qu'est-ce que c'est le vieillissement normal, mais aussi le vieillissement normal. Puis rendu là, le livre essaie de faire la distinction entre les deux, puis d'outiller les gens à bien comprendre. Puis au départ, le livre visait les aînés et leurs proches aidants, mais en termes de vieillissement, on vit dans une société qui est très âgiste.
Oui.
Puis comme cette société-là est âgiste, ben on comprend mal ce que c'est que le vieillissement, puis on met à peu près tout sur le dos du vieillissement. Donc, le livre vise à faire la distinction entre le normal et le moins normal, parce que quand on est face à un vieillissement anormal, ben, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, pas tant pour guérir ou retarder la mort ou tout ça, mais bien pour améliorer la santé, la qualité de vie des aînés. Et donc, c'est vraiment ça qu'on veut faire à la Fondation, donc Fondation Âge, puis le livre nous aide beaucoup d'ailleurs à la Fondation là, pour aller de l'avant avec nos projets de gériatrie sociale.
Ben justement, on va parler bientôt de ce que ça implique, cette approche-là de gériatrie sociale. Mais je sais que AGE, je vais vous emmener sur un autre acronyme que j'ai lu dans votre livre, DEG. Pouvez-vous me parler de ce que c'est? C'est la première fois que je voyais cet acronyme-là.
Oui. La DEG, c'est la diminution de l'état général. Les aînés, ça, on disait que les aînés présentent souvent une condition... les gens perçoivent mal le vieillissement normal, anormal, puis c'est le cas souvent, même à l'urgence, à l'hôpital, où on va décrire cette diminution de l'état général-là. La personne qui n'est pas en mesure d'exprimer des symptômes clairs, une personne de 50 ans qui a une crise cardiaque, là, elle a mal dans la poitrine, c'est facile à savoir ce qui se passe. Une personne âgée, souvent, elle va se présenter en DEG, diminution de l'état général. Elle ne parlera pas de ses douleurs dans la poitrine. Elle va être confuse. Elle va avoir perdu de l'autonomie. Elle a de la misère à se lever. Elle a de la misère à circuler. Donc, c'est les conséquences d'un problème de santé qui fait que la personne se présente avec une diminution de l'état général.
Donc, ça devient difficile d'identifier exactement ce qui se passe parce que j'imagine qu'il y a plusieurs maladies concomitantes en même temps.
Ben, c'est ça. Souvent, la personne qui présente la diminution de l'état général va avoir plusieurs problèmes de santé en même temps. Puis, ça complique vraiment les choses. Et ça, c'est une caractéristique importante des aînés qui se présentent avec des problèmes de santé. Les présentations sont pas pareilles comme chez les adultes plus jeunes. Donc, ça vient complexifier les choses, surtout quand on parle d'une société qui, à l'âge, reconnaît mal ce qui est le vieillissement normal, anormal. Puis, ça peut amener des délais dans les diagnostics puis les interventions. Donc, la DEG, on vise à ce que ce soit un acronyme du passé, éventuellement.
Jurabaxacette pour mon mal de dos.
Jurapitu sain pour mon rhume de cerveau. Oh!
Une pilule, une petite granule, une crème, une pommade. Y'a rien de mieux, mon vieux. Si tu te sens malade, une pilule, une petite granule, une infusion, une injection. Y'a rien de mieux, fiston.
Durabitu sain pour mon rhume de cerveau.
Durabitu sain pour mon rhume de cerveau.
De l'antiflogestine pour mon lumbago. Oh!
Une pilule, une petite granule, une crème, une pommade. Y'a rien de mieux, mon vieux. Si tu te sens malade, une pilule, une petite granule, une infusion, une injection. Y'a rien de mieux, fiston.
Pour mon lumbago.
Un peu de ginseng pour ma libido.
Une pilule, une petite granule, une crème, une pommade. Y'a rien de mieux, mon vieux. Si tu te
Viagra pour me remonter le moineau.
Oh! Une pilule, une petite granule, une crème, une pommade. Y'a rien de mieux, mon vieux, si tu te sens malade. Une pilule, une petite granule, une infusion, une injection. Y'a rien de mieux, fiston, pour te remettre sous tes dents.
Oh non!
Viagra pour me remonter le moineau.
Viagra pour m'amorter le moineau.
De la nicorette parce que je fume ben trop.
Une pilule, une petite granule, une crème, une pommade. Y'a rien de mieux, mon vieux, si tu te sens malade. Une pilule, une petite granule, une infusion, une injection. Y'a rien de mieux, fiston, pour te remettre sur tes dents.
Okay. Oh, oui.
De la nicorette parce que je fume ben trop.
De la nicorette parce que je fume ben
trop. Avec tout ça dans le corps.
Avec tout ça dans le corps.
Je mourrai pas de si tôt. Oh!
Une pilule, une petite granule, une crème, une pommade. Y'a rien de mieux, mon vieux, si tu te sens malade. Une pilule, une petite granule, une infusion, une injection. Y'a rien de mieux, fiston, pour te remettre sur le piton.
Okay.
Y'a rien de mieux, fiston, pour te remettre sur le piton.
C'était Remède miracle de mes aïeux. Nous sommes de retour avec le docteur Stéphane Lemire, co-auteur de Vieillir la belle affaire. Et je crois qu'on est dans des conditions sonores plus propices. Ça se peut?
Oui, le test COVID est fait. Donc, on s'est installé dans un endroit tranquille et on devrait être tout à fait calme.
Bon, écoutons, on est de tout cœur avec vous. Là, je pense qu'il y a plusieurs personnes au Québec qui ont vécu les mêmes choses ou qui le vivront malheureusement. Donc, on est vraiment en direct sur le terrain. Hein?
Exactement, comme dans la vraie vie.
Cette chanson-là, Remède miracle, là, c'est évidemment, bon, ça évoque une pilule, une petite granule, le fameux pilulier que plusieurs personnes âgées ont. Et je pense que vous me parliez un peu plus tôt de votre grand-mère, Laurette, et j'ai lu là que c'était justement un test là par rapport à je crois, un taux de calcium qui était deux fois trop élevé là qui a déclenché toute cette réflexion-là.
Oui, mais en fait, la situation là de Laurette, c'était, on parlait tout à l'heure de DEG, diminution de l'état général, puis c'est un peu ce qui s'est produit. Elle est arrivée à l'hôpital pour fracture là, relativement mineure, mais qui réduisait son autonomie. Donc, elle avait beaucoup de difficultés à faire son quotidien dans son appartement. Puis, donc, elle a été hospitalisée temporairement. Puis, pendant l'hospitalisation, elle a développé la fameuse DEG. Puis, comme c'est complexe, comme on le disait tantôt, ben, les gens n'ont pas eu le réflexe chez une personne de 95 ans là, de dire bon, qu'est-ce qui se passe exactement? Et on a pensé qu'elle avait une attaque d'ACV, qu'elle avait une crise cardiaque, différentes possibilités. Mais posteriori, dans ses prises de sang, il y avait son taux de calcium qui était anormal. Puis à partir du moment où plutôt que d'ajouter des médicaments, on en a enlevé. Ça a rétabli l'équilibre de son calcium, puis finalement, elle est redevenue en état général normal. Donc, c'est juste pour illustrer l'importance d'être attentif à ces choses-là. Puis l'idée, c'est pas de faire en sorte que les gens meurent pas de sitôt, là, comme ils disent dans la chanson que vous avez fait jouer. L'idée, c'est pas tant de retarder la mort que, premièrement, pas mourir de quelque chose qui est banal puis qui est causé par des médicaments. Puis aussi, mettre l'emphase plutôt sur la qualité de vie,
oui.
puis les relations entre les gens, puis tout ça. La polypharmacie, c'est un problème très, très grave chez les aînés qui passe un peu sous le radar, mais il y a une grosse partie des gens qui consultent pour des problèmes de santé qui présentent ces problèmes-là à cause de ce qu'on appelle une cascade médicamenteuse, mmh. c'est-à-dire la prescription d'un médicament permet un autre médicament pour régler des problèmes qui sont potentiellement des effets secondaires d'un autre médicament. Donc, oh, puis là, à mesure que les médicaments s'accumulent, il peut y avoir là, des conséquences néfastes sur la personne. Puis la chanson, je l'avais jamais vue sous cet angle-là. Effectivement, la polymédication est un enjeu. Là. Puis on ne meurt pas nécessairement de sitôt, mais ça ne veut pas dire qu'on va être en forme.
Bien, j'aimerais ça vous entendre justement sur le terme de la déprescription.
La déprescription, c'est suite à la réalisation, justement, là, que la polypharmacie, la polymédication, le fait d'avoir plusieurs médicaments en même temps avait des effets négatifs, bien, il y a des gens qui ont développé cette notion-là de déprescription.
Donc, on enlève des médicaments, là, on déprescrit.
Des médicaments, exactement. Puis, ça a l'air simple, mais en même temps, déprescrire, c'est pas nécessairement un réflexe. Le réflexe, souvent, est de prescrire. Puis même, culturellement, les gens s'attendent pratiquement à ça quand ils vont voir le médecin. Ils repartent de là, sans prescription. Souvent, les gens vont se questionner à savoir, ben voyons, comment ça. Puis là, si on déprescrit en plus, faut les convaincre qu'il y a des avantages. C'est pas évident. Puis en même temps, la déprescription, ben ça ne peut pas se faire de manière non supervisée pour tous les médicaments. Je pense entre autres aux médicaments pour dormir, qui est un vrai fléau chez les aînés au Québec comparé à d'autres endroits. L'utilisation des médicaments pour dormir, les fameuses benzodiazépines, c'est un des prototypes de déprescription. Si on va sur le site du réseau canadien de déprescription, il y a des outils pour les gens, là, par rapport à la déprescription des médicaments pour dormir. Dans le livre, on l'aborde un peu aussi. Il y a ces liens-là vers les ressources. En même temps, on peut pas faire ça tout seul dans un coin. On peut pas faire ça rapidement. Ça demande beaucoup d'investissement en termes de temps. Puis c'est sûr que dans la pratique courante, ce temps-là est pas toujours disponible. Donc, la déprescription, c'est quelque chose qui devrait prendre de plus en plus de place. Puis à mesure qu'on vieillit, puis que l'affaire est plus tant sur le prolongement de la vie que sur la qualité de vie.
Ouais.
Il y a beaucoup d'ajustements qui peuvent être faits là, pour améliorer la santé des gens. Là.
Je pense que c'est fort de toutes ces réflexions-là, des liens que vous avez faits, que vous avez développé cette approche-là de gériatrie sociale.
Ben oui, dans le fond, la gériatrie comme spécialité médicale au Québec, on la limite à une pratique hospitalière. La raison pour laquelle c'est comme ça, c'est qu'on n'est pas beaucoup de gériatres. En même temps, ça fait en sorte qu'on voit des gens à l'hôpital qu'on aurait peut-être dû voir des années auparavant pour être capable d'intervenir pendant qu'il était temps. Et donc, l'idée de gériatrie sociale est venue de là. Il y a eu une pratique de gériatrie sociale où j'allais voir les personnes à domicile. Puis, en ce moment, on a cessé ce service-là pour des raisons, disons, organisationnelles. Mais ça a vraiment fait ressortir un besoin marqué de repérage de situations problématiques, de formation des gens par rapport au vieillissement normal, anormal, d'intervenir rapidement quand il y a une situation qui dégénère. Puis évidemment, le fait d'être un gériatre aide beaucoup quant au développement de la gériatrie sociale, mais l'idée de départ n'a jamais été d'avoir un gériatre qui va dans toutes les maisons au Québec là, pour voir des aînés. L'idée de départ, c'était de former des gens qui sont sur le terrain déjà avec les aînés. Puis dans le cas du projet à Saint-Roch, on formait les préposés d'aide à domicile qui vont faire le ménage, qui vont faire différentes tâches à domicile, souvent toutes les semaines, deux semaines ou une fois par mois, et qui connaissent bien les aînés puis qui sont à même de voir des situations qui changent.
Si on veut en savoir plus... Si on veut en savoir plus sur ce projet-là de Saint-Roch, là, on peut en lire plus à quel endroit?
Ben, sur le site internet de la Fondation Âge, qui est fondationage.org, on peut trouver ces choses-là, ou même une simple recherche dans Google ou d'autres moteurs de recherche permet, en écrivant ces mots-clés-là, de nous trouver. Puis on décrit vraiment la démarche de gériatrie sociale. On a eu en 2016-2018 des forums où on a mobilisé la communauté autour du projet de gériatrie sociale. On a développé davantage l'approche. Puis avec ce qu'on a fait, on a publié là, sur notre site des documents là, qui vont faire un peu cette synthèse-là. Puis depuis les dernières élections au Québec, on a eu du support là, du gouvernement pour développer la gériatrie sociale. Puis en ce moment, il y a 3 projets pilotes qui sont en cours par rapport à la gériatrie sociale.
Là, bien, on espère, Dr Lemire, de pouvoir vous réinviter pour en parler dans des conditions qui vont être de façon sonore et stress plus agréables pour tous. Et j'espère que le test sera négatif.
Espérons, effectivement, ça va être beaucoup moins compliqué pour nous, mais surtout pour l'école et le reste des contacts potentiels.
Merci beaucoup. Merci, je vous laisse filer. Docteur Stéphane Lemire, co-auteur de Vieillir la belle affaire. On se retrouve en deuxième partie d'Au fil du temps, l'émission qui relie les générations.
Écoutez Au fil du temps avec Chantal Doré.
Pour cette deuxième demi-heure, nous allons philosopher. Philosopher sur le sens du mot « exister » avec Mitiko Miller, auteur et coach. Et nous allons aussi philosopher en musique avec une philosophe du quotidien et j'ai nommé Marie-Mé. Je vous offre sa chanson « Exister » et écoutez bien ses paroles. Un peu de courage pour recommencer. Le pouvoir de se relever, des mots gravés pour des éternités, voilà ce que je laisserai.
Avant que j'arrête, j'ai tourné la tête, comme si c'était la dernière fois, avant de me taire, de disparaître. J'ai trouvé sur mon passage un peu de courage pour recommencer. Le pouvoir de se relever, des mots gravés pour deux éternités. Voilà ce que je laisserai. C'est tout. We'll be right back.
exister, de m'arrimer. C'est d'ailleurs le thème de notre chronique avec Mitiko Miller, autrice, coach et formatrice en communication consciente et récipiendaire 2019 de la médaille de la paix des YMCA du Québec. Bonjour Mitiko.
Bonjour, comment ça va?
Ça va très bien, je suis ravie de vous parler, c'est une première fois.
Oui, tout à fait, et puis j'ai tellement hâte de parler de ce sujet tellement riche, tellement vaste, je ne sais pas combien on va pouvoir étaler, enfin développer en quelques minutes.
Oui, on a 10-12 minutes ensemble et j'ai envie de vous demander, d'entrée de jeu, vous, quelle est votre raison d'exister?
Je pense que ma raison d'exister, c'est vraiment de contribuer à rendre ce monde meilleur à ma manière. Et donc, j'existe vraiment en offrant le plus possible. On va voir, en fait, qu'est-ce que ça veut dire exister, hein? C'est vraiment intéressant comme sujet, parce qu'on peut vivre, hein? La plupart de nous vivons, mais qu'est-ce que ça veut dire exister? Alors, il y a Victor Hugo qui dit « Exister, c'est savoir ce qu'on vaut, ce qu'on peut, ce qu'on doit ». Je trouve ça intéressant. C'est vraiment tout l'aspect social, de la qualité sociale de nous, êtres humains, et notre besoin d'appartenance, notre besoin de reconnaissance, et je rajouterais aussi notre contribution oui. à la société.
Et là, dans les cultures traditionnelles, bon, chacun a sa juste place. Là, on est plus dans une ère où on est dans une optique de travailleurs, consommateurs. Quelle différence, là, on peut faire entre les sociétés traditionnelles et une société postmoderne, là, comme la nôtre, en termes d'exister?
Mm-hmm. Donc, au fond, c'est intéressant parce que j'ai donc lu beaucoup sur ce sujet mm-hmm. passionnant, mais j'ai aussi l'expérience d'avoir voyagé où il y a encore des sociétés traditionnelles. Je pense à la culture de ma mère. La culture de ma mère est japonaise. Et aussi étrange que ça puisse paraître, tu as des pachinko, puis tu as des gens habillés en kimono qui font justement, qui jouent à des jeux vidéo. C'est quand même fascinant. Où on révère encore cette culture traditionnelle. Quand j'étais jeune, ma mère me disait « Les aînés et les enfants sont considérés comme étant plus proches des dieux.
Oh. »
Donc, on doit les révérer et les traiter avec respect. Je trouve ça super intéressant. Il y a tout l'aspect presque sacré dans les sociétés traditionnelles envers les personnes aînées, donc les ancêtres et les enfants. Et donc la société traditionnelle voit la personne âgée comme sage. C'est elle qui assure, par la tradition orale, la mémoire de la société et les pratiques ancestrales, que ce soit la culture, faire de la cultivation, l'agriculture, que ce soit comment on accouche. En quelque sorte, ils assurent la survie du groupe et en même temps offrent la médiation. C'est intéressant. Donc, ce qu'il y a à comprendre, par contre, c'est que dans ce temps-là, les gens vivaient probablement jusqu'à à peu près 40 ans.
Oui.
Et donc...
on n'avait plus les aînés qu'on avait.
C'est pas tout à fait notre réalité, mais je trouve ça vraiment intéressant. Puis il y a un autre aspect que je trouve intéressant, c'est que avec la venue de l'industrialisation et de l'urbanisation, ça a énormément changé la constellation et les rôles de chacun. Il y a très 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 longtemps, avant qu'on vive l'industrialisation et l'urbanisation, un individu existait par son rang, donc son sang, est-ce que c'est un sang noble, et le sol. C'est intéressant, moi qui adore la culture scandinave, mm-hmm. C'est très étonnant, si vous regardez les noms de famille, c'est Johansson, Olafsson. Qu'est-ce que ça veut dire? Fils de Johan, fils de Olaf.
Donc on portait sa lignée dans son nom.
Puis en Russie, moi qui tripe sur Dostoïevski, mais on remarque qu'au milieu, il y a le patronyme qui se forme du prénom du père. Donc Dostoïevski s'appelait Fyodor Mikhailovitch Dostoïevski, ce qui veut dire fils de Mikhail. C'est fou, hein?
Ben, est-ce que vous pensez qu'il y avait cette tradition-là? Je ne sais pas si c'est propre au Québec, mais moi, mon nom, en fait, mon deuxième nom, c'est le nom de ma grand-mère, qui était aussi ma marraine, Thérèse. Et je sais qu'on avait coutume comme ça, justement, d'introduire dans les noms de baptême un nom d'un ancêtre, d'un aîné.
Je pense que c'est dans... Ben, c'est sûr que je ne suis pas un sociologue. Il me semble que c'est tout à fait dans cette lignée de reconnaître... notre famille, de reconnaître que nous sommes fils ou filles d'une lignée, de toute une famille, et qu'on vient aussi d'une certaine partie d'un pays. Je pense à tous les prénoms allemands qui finissent par Berg. Berg voulant dire bourg, c'est de tel endroit, ou de la Rochefoucauld qui vient du château la Rochefoucauld. C'est intéressant. Et puis, je veux continuer parce que ça a vraiment changé après le 17e siècle. Vraiment, l'identité, l'existence est passée par le travail. Alors, je pense à mon nom de famille, Miller. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire meunier. On change complètement les rapports au monde. On est professeur d'université, on est boulanger, on est coiffeur, on est psychologue. Et donc ça, c'est vraiment à partir du 18e siècle. Et puis, avec la période postmoderne, donc maintenant, on se tourne vers qui consomme, qui es-tu par ton travail? Regardez comment on se présente. Bonjour, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais dans la vie?
Oui, c'est ça, la fonction travail. On en parlait à notre émission la semaine dernière avec les deux Louise qui sont des retraitées. Elles disaient exactement la même chose. Ça devient... ce pourquoi on existe, notre travail, plutôt que d'exister tout simplement.
Alors, la question qui se pose, c'est quelle est la place des personnes âgées et des enfants dans une société où on existe lorsqu'on travaille?
Absolument. Et comment vous la voyez, justement, cette relation-là aux aînés? Puis on le voit là, dans tous les dossiers de cohabitation, on le voit justement dans davantage de cultures où on avait l'habitude d'avoir les aînés à la maison. Et même il y a quelque temps, au Québec aussi, on gardait nos aînés à la maison. Et là, on est passé à une toute autre approche, alors que dans plusieurs autres cultures, ça demeure.
Exactement. Puis ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que dans les lectures que j'ai faites, il y a un livre vraiment fascinant d'un auteur qui s'appelle Charles Gardou, qui s'appelle « La société inclusive, parlons-en ». Et lui dit que vivre sans exister est la plus cruelle des exclusions. C'est quand même intéressant. Et dans ce sujet-là, en fait, dans ce thème de la société inclusive, on constate en fait que tout a basculé lorsque il y a eu les systèmes de retraite qui se sont installés. C'est-à-dire que c'était plus la charge de la famille de s'occuper des aînés. Maintenant, il y avait aussi toutes sortes d'institutions spécialisées qui permettaient de continuer à travailler et qui fonctionne comme ça encore, qui permet de travailler et de faire en sorte qu'on s'occupe de nos aînés et de nos enfants. Avez-vous constaté ça? Moi, ça me frappe. Quand je vais au Japon, il y a des enfants partout. Oui. Il y a des aînés partout. C'est eux qui s'occupent du tourisme. Ils sont dans les squares et ils donnent de l'information aux touristes. Ils s'occupent des jardins. On les voit partout. On voit des enfants courir partout. J'ai vécu ça en Italie également, où il y a la grand-maman, la matriarche, puis il y a les enfants qui courent partout. Qu'est-ce qui s'est passé? Où sont-ils? Marcher dans la rue en plein après-midi pendant l'année scolaire. Qui est là?
Et cette année, c'est tellement particulier, mais quels efforts, justement, pourrait-on faire comme société pour les inclure davantage, les aînés, pour qu'ils soient partie prenante?
Je pense qu'on a vraiment, et d'ailleurs, la pandémie a été formidable à cet égard. Dans le sens où on a pu réaliser, mon Dieu, mais ils sont où, nos aînés? On leur a enlevé leurs droits. Ils doivent rester dans un espace, ils ne peuvent pas sortir de leur chambre. Et qu'est-ce qui est arrivé? Comme les jeunes enfants qu'on a constaté en fait dans différentes expériences, quand tu ne touches pas un enfant, quand tu ne converses pas avec un enfant, il meurt. Même chose avec les aînés. Lorsqu'ils n'ont pas de stimulation, lorsqu'ils n'ont pas de contact, il y a quelque chose qui se passe. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a certaines... On remarque depuis, je dirais, une dizaine d'années, vraiment, qu'en tant qu'être social, nous avons besoin d'exister, justement. Exister, pas juste vivre. Et pour ça, on a besoin d'être en communauté. Et je ne vous parle pas de, d'éco-village ou de commune, comme on a dit dans les années 70. Je parle de réclamer chacun notre juste place dans la société. Et je pense à l'exemple, il y a plusieurs exemples à travers le monde maintenant, mais je pense à une maison de retraite à Seattle aux États-Unis qui s'appelle The Mount. Ils ont créé une garderie à l'intérieur de la maison de retraite. Et l'objectif, c'est justement d'établir une communauté vibrante et vivante. Où, et ça, c'est la personne qui est en charge de The Mound qui explique qu'on va dans cet endroit pour vivre, pas pour mourir. Mmh. C'est super intéressant. Donc, il y a une, comme une notion maintenant de plus en plus claire que nous sommes interdépendants. On ne peut pas nous mettre dans des petites cases. Les aînés ensemble, les enfants ensemble, les travailleurs ensemble. Pourquoi pas décloisonner tout ça? Et je pense qu'en tant que société, nous avons à nous poser énormément de questions. OK, il y a des élans comme ça de combiner des maisons de retraite avec des garderies. On entend parler de personnes âgées seules qui travaillent de concert avec un jeune étudiant et ils coexistent ensemble dans un équilibre formidable. Avec la pandémie, je pense qu'on a vraiment l'occasion de réfléchir à comment faire pour que nous vivions tous ensemble dans une société inclusive, non pas pour vivre, parce que c'est ça qu'on vit actuellement. On vit l'inclusion, mais exister.
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 Mais Tico, on aura l'occasion de se reparler pour explorer un peu tout ça à nouveau, comment on peut favoriser davantage d'inclusion. Et je vous remercie pour ces différents exemples que vous nous avez donnés d'ici et d'ailleurs. Je pense que c'est très riche et on voyage avec vous dans le temps, dans l'histoire et à travers d'autres cultures. Très, très agréable de vous parler. On se revoit, on se reparle bientôt.
Exactement. Bon après-midi, bonne journée à vous tous.
Merci, au revoir. Mitsiko Miller.
C'était comment avant d'être un œuf?
Avant d'être un œuf, je sais pas, mais en tout cas, après l'œuf, j'étais poussin, c'était bien. Je passais cadette, c'était la vie et me voilà.
Et alors, senior, c'est comment?
Senior? J'adore.
Le jeu avance. Ce sont là de très bons niveaux, toujours intenses, sans bavio. Quand la partie dure, je la joue plus apaisée, m'intégrer.
Et senior, j'adore. J'adore.
C'était « Senior, j'adore » de Catherine Ringer. Catherine Ringer des Rita Mitsuko, et non pas Mitsiko, notre invitée que l'on vient tout juste de recevoir. J'aime bien le dimanche matin préparer la musique pour « Au fil du temps ». Et là, je regardais un petit peu de quoi on pouvait parler sur ce thème-là, d'exister. Et mes yeux ont accroché Catherine Ringer, à l'écran, âgée de 62 ans, qui chante cette chanson-là. Et tout à coup, je me suis revue à 15 ans dans une discothèque à chanter et danser à tue-tête sur Marcia Bella. Et ça m'a fait tout drôle de voir tout à coup Catherine Ringer à 62 ans. Et je salue son courage, comme ça, de chanter, de vieillir à l'écran en gros plan. Et je trouve qu'on a besoin de modèles comme ça, de femmes qui vieillissent à l'écran. Personnellement, je suis irritée par toutes ces applis Facetoon qui vous transforment en sorte de poupée Barbie virtuelle. Je déteste ça et je me suis rendu compte que la dernière fois que j'ai fait une session de photo, la photographe m'avait enlevé des rides et je lui ai dit « Non, non, tu laisses mes rides, c'est moi. » Et elle m'a dit que la plupart des gens voulaient qu'on fasse ça et ça m'a fait « Non ». Donc, bravo Catherine Ringer de vieillir comme ça à l'écran. Puis ça m'a fait vraiment réaliser aussi dans l'entrevue, elle disait que, au fond, Rita Mitsuko, ça a toujours été des chansons très profondes sur des chansons dansées. Prenez Marcia Bella, justement. C'est un hommage à Maria Moretto, sa prof de danse, qui a été emportée par un cancer. Et c'est fou, aïe aïe aïe, j'avais jamais réalisé les paroles de cette chanson-là. Mais en fait, c'est un petit peu ça, la vie, de réussir à danser quand même sur les choses qui sont un peu difficiles et de faire passer des messages comme ça en dansant, bien, c'est un peu plus simple. J'ai envie de vous faire entendre une chanson qui est un remix. Les plus âgés que moi se rappelleront peut-être du film « Les Mâles » de Gilles Carle, chanson du film composée par Stéphane Venn. Cette chanson-là, elle a connu un second essor dans le film « Les amours imaginaires » de Xavier Dolan, qui est un triangle amoureux. Xavier Dolan, au début de la vingtaine, reproduit souvent ces thèmes-là dans sa cinématographie. Mais dans la chanson originale, c'est une femme et ses deux amoureux. Et là, ce que je vous fais entendre, c'est un remix par le collectif Bon Entendeur, trois jeunes Français de moins de 30 ans, spécialisés dans les mixtapes. Cette chanson-là, cette version-là, en fait, a été entendue plus de 25 millions de fois. Alors, je pense que c'est un exemple fascinant d'intergénérationnel. Je vous fais entendre cette chanson-là, remixée par Bon Entendeur. Je vous laisse en juger, moi j'adore le beat.
Le temps est bon,
J'adore le beat de ce remix-là. Quel bel exemple d'intergénérationnel. Merci à Stéphane Lemire, gériatre et auteur de Vieillir la belle affaire. Merci à Mitiko Miller, coach et formatrice. Merci à toute l'équipe de Canal M, Louis Garon, chef d'antenne, Maurice Bolduc à la régie, qui a eu à faire des petits miracles là, pour cette émission-ci, qui nous a causé quelques petits bouleversements sonores. Catherine Bourderon à la recherche. La semaine prochaine, on reçoit Imane Lalou, docteur en sciences, technologie des aliments et auteur de La santé en toute simplicité, et la chroniqueuse Mélissa Plante qui nous parle de 5 leçons de son passage en CHSLD. Alors allez, existez à plein, prenez soin de vous.